Radio Éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 10 septembre, il fait gris dehors, vous écoutez la radio FMR avec vous jusqu'à 5h du matin sur les 89.1 MHz à Toulouse. Comme tous les samedis, nous ouvrons avec les magazines, suppléments week-end, BD, cinéma, télévision, hein.
Ouais.
Thomas, tu fais la suite, hein?
Ah non.
Bon, d'accord, ok. Ensuite, le cahier du sport, et à partir de 15h du mix avec Zarma Farai, c'est du reggae, 17h, vie d'ordure, c'est du punk, jusqu'à 18h30, 21h30, la reprise est directe avec Liquid Sky de Electro, et 23h, Breakbeat Experience avec Peyo et toute sa bande de Zivor, là, qui vont passer la drum en basse, yo sa mère, jusqu'à 3h du matin. Voire 5h en je ne sais pas, en poussant. Ce qui paraît, on est diffuseur officiel du printemps de septembre, Thomas.
Eh oui,
ce qui paraît, t'as pas vraiment compris l'affiche?
Non.
Ouais, à mon avis, faut avoir fait Beaux-Arts pour ça.
Mais j'ai fait Beaux-Arts et je la comprends pas.
Ah merde.
Éphémère, vous n'aviez jamais écouté de radio?
J'espère bien, oui. Xavier Thomas avec vous jusqu'à 13h et quelques pelures. The Heartful Dodger, ça pète, ça déchire sa race.
Xav.
Ouais.
D'habitude, Heartful Dodger, ça pulse un peu plus quand même, ça
oui,
pète un
bon,
peu là.
Là,
ça endort là.
Oui, bon, c'est vrai que c'est le prêt du Two Step ou de Luca Garage. Bon, bah écoute, attends, tant que j'ai deux singles sous la main. Je sais pas, moi j'ai la version Another de Baoli King Fiction Dub qui est plus two-step, ça dure 7 minutes 12.
Ouais,
attends, non, la version de Grant Nelson, hein.
Allez.
Elle démarre plus sec. If you want me to do you right, you're gonna have to love me day and night. 24/7 love, you know just what I need is what I need.
In the morning, in the evening, in the winter, spring or summer, whether it's early or it's late, it doesn't matter any time. Tender loving, sweet devotion, every second, minute, hour, I'll be waiting for you. Come put your loving on the line.
Take me in your arms and let me know that it's alright. Look into my eyes and let me see you deep inside. 24 hours a day, 7 days a week. I need to feel you here beside me. I need to hold and squeeze you tight.
Just what I need. Tu vois, Thomas, quand le son, tu vois, il pulse comme ça, il s'aspire tout, ça s'appelle le pompage, c'est la compression, et ça veut dire qu'à la diffusion FM, ils ont super mal réglé le compresseur et que.
Ouais, non, c'est super intéressant ce que tu dis.
Oui, non, mais c'est parce que voilà, j'ai été un vrai technicien.
Et ah ouais. Bon, si on passe à l'émission maintenant.
Ah oui, donc ceux qui nous écoutent en podcast ont un son de meilleure qualité, tu vois, donc non, bon d'accord, ok.
Non, on s'en fout.
Hein. Juste pour dire, donc, on fait toujours partie, il y a toujours un prix podcast d'or de la langue francophone du public, donc il faut voter pour nous, podcastsdor@.com. Et donc le nom de l'émission c'est Da Screech. Je crois qu'ils ont pas tout compris. Enfin bon voilà, Zou, on s'en fout. Et c'est juste pour signaler que Peak System, qui est un ancien de Radio FMR, qui faisait une émission auparavant qui s'appelait ah j'ai oublié, tiens. Ça fait partie des mille et une émissions que j'ai coachées. Enfin voilà, donc ouais, il a propre podcast sur l'informatique libre, enfin l'informatique alternative. On en reparlera prochainement, je pense. Accessoirement, ben on a appris le décès d'André Pousse. Mmh. Hein, ça, on change complètement de sujet, là on parle cinéma.
Ouais, c'est le chauve là qui jouait dans les films de Michel Audiard, et c'est lui qui s'était fait piéger par Mezrahi et il s'était fait traiter d'homosexuel pour refuser de tourner le dos à une porte.
Moi j'aurais plutôt traité, vu les costards avec lesquels il sortait, les impermastiques, j'aurais plutôt parlé de pervers pépère, tu sais, tu le vois devant les maternelles, des fois, ouvrir grande.
Oh.
Non, il avait une bouille monstrueuse, c'est vrai que c'était l'acteur fétiche d'Audiard. Enfin, ça, c'est ce qu'ils s'en est vanté, et puis voilà, et après, bon. C'est vrai que le cinéma français a perdu une de ses grandes bouilles des polars. Et ça, c'est bien dommage. Ça tombe bien, puisqu'on va parler tout à l'heure de polar, justement, avec Jacques Tardy, qui adapte un roman de Manchette, qui nous a quitté il y a 10 ans. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Les Lions d'Or, c'est le festival du cinéma international de Venise.
La
Mostra de Venise, ça a lieu en ce moment. La remise des prix a lieu ce soir, mais on a déjà.
Et oui, les prix.
On a déjà des petites indiscrétions sur les prix, oui. Mais là, c'est plus qu'une indiscrétion, c'est carrément une confirmation.
Dans la dans la grande tradition des prix pas posthumes, mais des grands hommages.
Non, Thomas, non.
Allez, on vous laisse deviner un peu avec la musique avant de vous balancer le nom du mec. Là, t'es vache, hein.
Ah, c'est toi, là. Ah, c'est toi.
Ah, voilà.
Vu les scores au cinéma en France, si là, vous avez pas trouvé, franchement.
Si on commençait par les plus méconnus qu'il a fait... Non, ils sont tous connus.
Oui, c'est vrai d'ailleurs. Et même à son copain, c'est
Les Aventures de Sherlock Holmes.
Heidi,
ouais.
Aussi. Mais c'est des séries télé, c'est pas des. Horus, ah ouais, c'est son copain. Donc,
ouais, c'est Takata qui l'avait fait, c'est pas lui.
Ah,
l'avait...
t'as dit. Ah, là, franchement, s'ils ont pas trouvé, allez.
Bah, allez, je te laisse le soin de prononcer son nom.
Hayao Miyazaki a donc un prix pour l'ensemble de sa cinématographie. Il a un Lion d'Or d'honneur, tout comme il y a eu César d'honneur,
les Oscars d'honneur, etc.
Et voilà, et la Palme d'Or d'honneur. Ouais. Voilà, c'est
généralement sont des prix qu'on accorde à des gens qui ont plus de 70 ans et qu'on sent qu'ils vont bientôt crever.
Ah non, je t'interdis de le dire. Il a pas 70 ans encore.
Hein? Ah si. Non?
Non, je crois qu'il a 66, un truc comme ça.
Ah, il fait vachement vieux pourtant.
Thomas, là, tu me désespères.
En tout cas, bon, c'est dommage qu'il lui accorde un prix juste après qu'il ait sorti son film, on va dire, enfin, à mon sens, le moins réussi. Le Château Ambulant.
Qui, d'ailleurs, l'an dernier, avait manqué de peu un prix, hein, il me semble.
Il a déjà eu le Lion d'Or à Venise pour le voyage de Chihiro. C'était au début des années 2000.
Et d'ailleurs, je crois que c'était la première fois qu'il y a eu une Palme d'Or depuis 1948 qui a été attribuée.
Non, Lion d'Or.
Palme d'Or pour Cannes. Qui avait été attribuée, je crois, pour un de ses films.
Non, il n'a jamais eu de Palme d'Or.
Il n'a pas eu, excuse-moi.
Non.
Bon, d'accord.
Non, okay. À Cannes, on est encore trop frigide par rapport au cinéma d'animation à Venise. Par contre, c'est okay. Assez ouvert
donc,
de ce côté-là.
Donc, erreur grossière, Xavier. On les compte, hein. Pour ceux qui vont jusqu'au bout des émissions, en général, ils savent de quoi il s'agit. Et voilà. On va. Oups. Et hop, autre chose. Parce que tout à l'heure, ça va être un peu une ambiance jazzy et tout, ouais. Hein, dans le cinéma. Donc, transition rêvée, toujours. Thomas.
Oui, on va parler de revue de presse concernant le cinéma avec le nouveau numéro de Score. Il s'agit du numéro 12 avec la bellissima Monica Bellucci en couverture.
Alors, encore une italienne.
Oui. Alors, c'est titré Sex Machine, Monica Bellucci, vénéneuse dans le nouveau Terry Gilliam. Alors, ne faites pas comme moi. Hein, si vous achetez le magazine exprès pour Monica Bellucci, vous en aurez pas pour votre argent parce qu'il y a une malheureuse double page à l'intérieur pour dire ah, Monica Bellucci, ouais, génial. Donc, non, en fait.
À poil ?
Non, même pas. Non. Donc, c'est un magazine avec un énorme dossier consacré au nouvel opus de Terry Gilliam, Les Frères Grimm, avec des analyses, une longue interview du réalisateur, des images, un exclu, etc., etc. Donc, c'est un film très attendu. Et Score fait un numéro à la hauteur de l'événement. Et comme depuis plusieurs numéros, il se spécialise également dans des suppléments inédits offerts avec le magazine. Donc, aujourd'hui, on a. Un film qui s'appelle Collision, vous avez certainement entendu parler, c'est un polar par le scénariste de Million Dollar Baby, avec un casting de choix, Sandra Bullock, Brendan Fraser, Nona Gay, la fille de Marvin Gaye qui jouait déjà dans Matrix, Tandy Newton, Matt Dillon, Don Cheadle, Ryan Phillippe, que du lourd, et un autre supplément également consacré au nouveau Tony Scott, Domino, avec Keira Knightley et Mickey Rourke. Voilà.
Ah, attends. Qu'est-ce que là t'étais en train de feuilleter là? Je viens de voir passer une pub là. Une pub, mais c'est Planète.
Oui. Exactement.
Ouais, ouais. Ça y est, ça sort en France.
Eh oui, on dirait oui, en DVD.
Ouais. Alors Planète, je vous explique, c'est une manga qui est éditée chez Génération Comics, qui est d'une très très bonne facture. Et la série télé, c'était la première fois que la NHK refait de la production de dessins animés. C'était pas arrivé depuis. Eh ben, tenez-vous bien, depuis les Cités d'Or. Les mystérieuses Cités d'Or, ça fait 20 ans, hein, quand même. Et là, ils ont fait une série absolument superbe, incroyable, très réaliste sur la conquête spatiale, mais telle qu'elle, je l'ai vu passer, tu es encore passé à côté. Bon, tant pis, voilà. Donc, c'est moi qui annonce.
Non, c'était pas ça.
Il a pas retrouvé, d'accord. Tu feuillettes bien.
Votre planète a besoin de vous, planète.
C'est pas exactement ça, hein. Je suis pas d'accord avec la tagline, hein, parce qu'en fait, l'histoire, tout comme dans l'époque actuelle, les gens deviennent infographistes par passion, ils se rendent compte que c'est vite une corvée, ben là, c'est des gens qui deviennent astronautes, iconautes, ouais. Spationautes, voilà, par passion, ils se rendent compte que c'est une corvée, puisqu'il s'agit de récupérer les débris qui, au bout d'un siècle de conquête spatiale, ont commencé à rendre les abords de la planète Terre particulièrement dangereuses pour n'importe quel vol habité. Donc c'est plutôt bien foutu, très bien adapté. On en reparlera. Je foncerai puisque oui. On a une autre rubrique DVD.
De façon tant qu'on y est, on va dire que les volumes 1 et 2 sont disponibles depuis le 8 septembre. Voilà, vous pouvez déjà les trouver.
Donc depuis avant-hier, je peux y aller. On en rediscutera. On a une sortie DVD aussi qui était passée complètement inaperçue. On en parlera tout à l'heure puisqu'il s'agit du magnifique Aibane Renmé. Première série scénarisée par Yoshitoshi Abe, qui n'est pas un inconnu quand même dans le milieu de l'animation japonaise, même si c'est plutôt underground ce qu'il fait. Est-ce qu'il paraît on a loupé les Inrocks ?
Ouais, on a loupé les Inrocks parce que bon ben le numéro ça y est, c'était la période du 31 août au 6 septembre et c'est Jim Jarmusch en couverture.
Mais non, attends, il y était encore hier chez Gilda.
Ah ben voilà, et bien en plus il y avait un DVD supplémentaire avec le magazine consacré à la rentrée cinéma et dans ce DVD,
ils font ça tous les ans. Hein,
oui, ben là cette fois c'est à l'occasion de la sortie des très gros films d'auteurs qui vont arriver comme celui de David Cronenberg, History of Violence, il va falloir que je comptabilise le nombre de fois où j'en parle dans cette émission quand même. Ou Sao Sien et Jim Jarmusch
ou encore Ma sorcière bien aimée, donc
oui, bien sûr. Et si on passait à la BD.
D'accord. Ça s'appelle Un flingage en vue.
Pourquoi ma sorcière bien aimée ?
Ah, va falloir que je jongle. Parce que le CD de fond, qu'on entend là, James Taylor Quartet,
ouais.
C'est le même fond que pour la BD que je vais parler maintenant. On va zapper au vol.
C'est pas grave, on a l'habitude. Ouais,
pensez-vous donc. Euh... D'accord, ok, bah on va faire comme ça. Zou, allez hop. Donc on va parler de bande dessinée cette fois-ci. J'ai pris pratiquement que de la bande dessinée européenne. Pour une fois, il y avait eu, c'était la rentrée littéraire hein, quand même. Il y avait pas mal de sorties. J'en avais sorti vraiment là.
Ouais, t'as de la chance, il y a Houellebecq qui sort pas de BD.
Houellebecq qui fait une BD, ma foi, je prendrais peur. Déjà, Houellebecq qui fait des disques. Oui, mais il chante pas, il parle dessus. Et quand on sait que c'est l'ancien producteur de Leibar, un groupe qui avait été traité en son nom à une époque de fascisme, voire même de nazisme, franchement. Houellebecq, lui aussi, en loupe pas une dans le même niveau. Enfin bon. Je sais plus dans quoi je m'égare là,
c'est moi qui t'ai lancé dessus, c'est pas grave.
Ouais, d'accord, ok. Donc, on va parler d'une bande dessinée pour enfants, pour une fois, une bande dessinée, je vais dire, plutôt gentillette. Hein. De toute façon, les adultes, ils regardent ça, ils vont regarder ça gentiment, et puis ils vont l'offrir à leur petit neveu, normal. C'est sur un scénario de François Debois et un dessin de Julien Gallo. Le premier tome de cette série s'appelle La Bulle. Donc cette série s'appelle Oxygène, voilà, j'ai failli me tromper. C'est dans la collection Néopolis chez Delcourt, une collection qui est plutôt dédiée à la science-fiction ado, adulte, et qui cartonne pas mal, mais en tout cas très graphique. Mais en général, on n'y trouve pas de bouquins jeunesse, tout simplement parce que Delcourt a une collection jeunesse pour ça. Et là, c'est le premier bouquin qui sort, qui soit vraiment pour les enfants. C'est assez étonnant, d'ailleurs ça s'accompagne d'un relooking de la maquette, puisque Néopolis, maintenant c'est en bas, c'est plus en haut, bizarrement. Et ça se passe dans un futur presque post-apocalyptique où, à force d'industrialisation à outrance, l'homme a quasiment détruit la nature. Les arbres sont tous morts, les animaux presque tous disparus et les fleurs aussi précieuses que l'oxygène. Les seuls qui peuvent connaître ça vivent dans une gigantesque bulle fermée et bien gardée, ayant fait fortune grâce au commerce des respirateurs artificiels. Mia est une petite gamine qui vit parmi les tribus extérieures et promet d'être une fine chef de guerre. Faut dire qu'elle attaque les trains qui transportent les respirateurs entre les usines et les lieux de vente et elle les redistribue, style fantasme, je veux dire à la Robin des Bois, on va dire. L'espiègle gamine va pourtant se retrouver avec un billet d'entrée vers cette fameuse bulle aux riches et aux nantis. Promesse de richesse et d'abondance. Sauf qu'il trouvera un travail de souillon. Bon, propette, hein, la souillon. Mais boniche à tout faire quand même dans sa tenue sanisette WC couleur verte. Rien que la couve, ça me fait... Le dos de la couve, ça me fait marrer.
Ouais.
Non, le dos.
Ouais.
Oui, hein, je veux pas dire, avec son tempérament quand même dans ce monde qui est bien réglé, où il y a que des choses très précieuses, eh ben, va y avoir de la Java. Oxygène est une série qui est pour enfants. C'est marrant, c'est sympa, le scénario est parfaitement convenu, l'inspiration vaguement orientalisante, évidemment, le propos est plutôt écologique. C'est un cadeau idéal pour le petit neveu ou la petite nièce si c'était pas la rentrée des classes, ce qui veut dire un peu trop tôt pour faire les cadeaux puisqu'ils ont pas encore reçu les premiers cahiers de notes. On sait jamais, hein, si vous avez un gamin plutôt insupportable.
Bah vous le gardez au cas où il aurait sa première note, bonne note.
Oui, bon, d'accord, ok. Ah, du sport, il arrive à temps d'ailleurs. On va le laisser s'installer.
Avec son beau t-shirt éphémère.
Enfin, moi je dirais plutôt avec son superbe impair breton. Ça tombe bien puisque Trump parle d'un breton. Donc. D'ailleurs, salutations à Mika, un breton dans l'âme. La... 12h18 sur Radio FMR. Donc, vous écoutez Supplément Week-end, magazine consacré à la bande dessinée, au cinéma.
La et télévision. La...
Oui, puis voilà, et puis plein d'autres choses. Non, arrêtez de rigoler, les gars, c'est gênant. Il est pas en forme du sport parce que là, je vous explique la scène. Là, il vient de poser à côté de moi les CD. Ah, j'ai eu peur parce que d'habitude, il arrive, il y a au moins 50 CD. Hein, ça arrive à un joli niveau. Et là, il y en avait même pas 20, donc je comprenais pas tout. Quoi.
Mais il fait plusieurs voyages.
Ouais, il fait. Il est pas comme moi, quoi, c'est clair. D'accord, ok, ok, d'accord, on commence dans le fight point de vue musical, ça va être joli. Enfin bon, ceci dit d'ailleurs, la semaine dernière quand je disais qu'effectivement on avait de gros 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 problèmes techniques, vous ne vous doutez pas à quel point c'était. Là ça s'est un peu arrangé, donc du sport, j'espère qu'il va faire une meilleure émission que la semaine dernière. À mon avis, t'as dû galérer. Je vais pas en revenir puisque là on continue sur la bande dessinée. On va parler de bande dessinée d'aventure un peu classique puisque il est question, je vais dire, de marine, marine marchande, d'aventure, d'intrigant et d'héros, mais d'un héros qui en est pas vraiment. Hein. Il s'agit de Jean-Charles Crahen au scénario et au dessin Philippe Jussomme, qui sont de vieux briscards de la bande dessinée. Trempe, le septième tome s'appelle Escale dans le passé. Le premier tome se passe en Europe, le premier cycle se passait en Europe, le deuxième se passait en Afrique, à faire du cabotinage, et là, et ben, donc on se retrouve en Asie, en Indochine pour être plus précis. C'est chez Dargo. Trempe est une série qui est tout à fait classique, mais elle est passionnante, vraiment, pour moi c'est un bonheur à lire. Le Trempe, c'est un cargo qu'on ne verra pas dans ce nouveau cycle, mais où les bateaux sont véritablement des personnages à part entière. En fait, le personnage principal, c'est Yann Kalex, un jeune marin breton qui est devenu commandant dans la marine civile, c'est-à-dire qu'il a son brevet qui commande, je veux dire, un navire en lui-même, à l'époque où le statut de la marine marchande en est encore prestigieux. Et surtout, alors que le fret des bateaux cachait de bien tristes secrets et où la douane, finalement, était un peu... Bon, allez, laissons faire, quoi. En étant muté à Saïgon, il va aussi mettre les pieds dans ceux de son père avec qui il a rompu une dizaine d'années auparavant. J'ai dit Saïgon, une ville qui est proche de la guerre en 1952, celle d'Indochine où l'Amérique, après avoir fourni en armes les communistes, histoire que la France perde ses colonies, va bientôt être obligée d'intervenir. Mais en attendant, ce sont les civils qui s'occupent du ravitaillement de l'armée française. Et donc le navire, le Tabor, dont Kalec va prendre le commandement, qui s'annonce plutôt paisible après tout, hein, petit trafic, petit chemin pépère, quitte à être loin de sa femme Rosanna et de sa petite fille Inès, un bon coin pour se faire de l'argent malgré le danger annoncé. Au milieu d'aventuriers de toutes sortes, d'excentriques, de coloniaux qui ne comprennent pas que la dernière heure de la France coloniale est venue. Une atmosphère parfaitement retranscrite par les auteurs qui sont donc de vieux briscards de la bande dessinée et mettent un point d'honneur à avoir une solide documentation mais aussi à recueillir les témoignages de ceux qui vécurent cette époque. L'atmosphère d'aventure, la galerie de portraits, c'est une série de danse assez agréable à lire. Ça fait un peu penser à Corto Maltese, mais finalement, Kalec ne cherche pas vraiment les histoires, alors que Corto Maltese, lui, est un aventurier pur jus.
J'aime bien les ambiances colorées, moi.
Ouais, graphiquement, c'est vrai que bon, quand on parle de Corto Maltese du groupe Pratt, Hugo Pratt faisait des dessins en noir et blanc et ensuite il mettait des touches de... pas de pastel, je vais dire une bêtise, mais d'aquarelle par rapport à ces autres BD qui étaient beaucoup plus colorées, tandis que celle-ci vraiment c'est de la couleur pleine, de la couleur directe, et c'est loin d'être désagréable.
J'aime bien la couverture.
Ah, mais toutes les couvertures sont très 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 bien composées, hein. Elles sont bien foutues en général. Sors la grosse sortie là qui est dessous, qui est en noir, et montre-la montre-la du sport, tiens, on va rigoler. J'ai comme l'impression que là je vais me faire piquer une BD là.
Oui certainement, ouais.
Donc la grosse sortie de cette semaine, et eh ben il s'agit de Jacques Tardy au dessin, puisqu'il s'agit de l'adaptation d'un roman de son grand pote Manchette, qui a disparu maintenant il y a 10 ans à peu près.
Plus.
C'était en 95, ouais.
Ah ouais.
Ah ouais. Mais j'ai vérifié les bios et tout. Hein. C'est une émission sérieuse, monsieur, ici. D'excellente tenue. C'est première surprise, ça sort chez les humanoïdes associés. Il a rompu avec Casterman, là où il sortait historiquement ses bandes dessinées, parti chez les humanos. Et Tardy donc sort 10 ans après la disparition de Manchette, une excellente adaptation d'un de ses bouquins de gare. Vas-y.
Ouais, bah, je comprends un petit peu parce que bon, bah, on peut dire que Tardy est quand même de la génération des humanos en fait. Hein.
Mais il a sorti des bouquins chez
les humanos. C'est pas le même style que ce que faisaient les humanos au départ, mais enfin bon, c'est un peu la même génération. Hein.
Attends, l'exterminateur était sorti chez Assuire. Je dis une bêtise, mais il avait des trucs qui étaient quand même pas, qui étaient pas loin de sortir chez les humanos, donc. Quand même tranquille quoi en général.
Allez, tiens du sport. Mais tu me la fileras après quand tu l'auras lu.
Alors à signaler quand même que le bouquin, c'est-à-dire le bouquin de Manchette, le petit bleu de la côte ouest, hein, qu'on peut trouver d'ailleurs, je crois, en série noire, me semble.
Oui, c'est ça. Chez Gallimard.
Je donnerai pas le numéro parce que bon, bah, j'ai pas potassé tout simplement. Mais par contre, le livre était sorti en feuilleton. Dans le Charlie mensuel, il y a très très longtemps, et je crois qu'il faisait suite ou il précédait un autre polar de Manchette qui était sorti comme ça, pareil, qui d'ailleurs était scénarisé, qui a donné un film, dont le titre est La position du tireur couché. Voilà, je vais y arriver.
C'est après.
Donc,
après, j'ai vérifié.
Et le petit bleu également était sorti comme ça, quoi, en plusieurs textes. Hein, et puis bon, chaque mois, bah, on attendait.
La position du tireur.
Par ailleurs, excellent découvreur de BD, surtout de BD américaine. Hein. À l'époque, il y avait un petit peu les tenants de la BD française.
Ça a rien à voir avec Charlie Hebdo. Hein, c'était Dargaud qui avait sorti ça. Voilà, et c'était
À
suivre.
Il y avait des mecs de Charlie qui en faisaient partie. Il y avait GB, Wolinski, toute la clique, hein, bien entendu. Mais il y avait également des auteurs de science-fiction tels que Jean-Pierre Andrévon, Sternberg pour des trucs un petit peu plus épisodiques. Enfin bon, c'est un canard qui marchait pas mal. Et si auparavant, ben, on avait eu les grosses vagues de BD françaises à la française, hein, nouveau style qui sortait dans Tintin, qui sortait française ou belge, hein, bien entendu, ou dans Pilote, hein, avec l'éclosion de tous ces talents qu'on a, tous les Mandrika, tous les Gottlieb, qui ont vraiment pu s'éclater à fond les manettes. Il y avait vraiment une part très ténue en ce qui concerne les BD et les auteurs de BD étrangers. Et Charlie Mensuel, pour ça, eh ben, c'était quand même une bouffée d'oxygène, parce que ça permettait d'avoir et de la BD française. Hein, les Paulettes de Wolinski et de Pichard sont parues dans Charlie Mensuel, hein, également à suivre. Et on avait également des très très grands dessinateurs américains. On a eu Frazetta, on a eu Corben et toute la clique. Enfin bref, c'était pas mal pour ça. Quoi,
je pensais que c'était Chihuahua sur Manchette qui allait partir et j'ai même pas commencé ma chronique et j'ai dû changer de fond là. Donc en fait,
c'était une chronique littéraire de l'émission.
Oui, tout à fait, avec un joli fond parce que le jazz est très important dans l'histoire. Il se trouve que là j'ai plus assez le jazz qu'il faut. C'est un peu dommage. Donc Manchette là, il met de sa référence musicale. Et alcoolique dans ses bouquins, on le sent. Là, dans cette BD, ben justement, c'est d'abord il revendique que c'est un roman, que c'est un bouquin de gare. Le roman noir pour lui, ça ne peut pas être un truc de littérature. C'est qu'un truc qui se lit dans le métro ou dans le train, et puis hop, après on le jette. Et c'est l'histoire en fait d'un cadre, d'une grosse boîte qui va perdre sa vie de famille, tout simplement parce qu'il est poursuivi par deux tueurs à gages, impitoyables, bêtes à tuer. Face auquel, théoriquement, donc, ce cadre, Georges Gerfaut, n'a aucune chance d'en réchapper. Et pourtant, même s'il ne fait, c'est pas pourquoi ces assassins en veulent à sa peau, il est bien déterminé à en réchapper, à avoir le fin mot de l'histoire. Par là même, il va retrouver le goût de la vie qu'il semblait avoir perdu dans la morosité ambiante. Bah oui, parce que le fond social du roman transpire. On est dans les années 1970. La France s'enlise dans la crise pétrolière, le chômage et la déprime ambiante. Je vous rassure, ça n'a pratiquement pas changé depuis. Tardy arrive malgré tout à nous faire passer une époque désormais révolue. 1977, Renault trouvait son HLM particulièrement blême. Giscard anesthésiait la France, Roger Gicquel faisait la gueule dans son JT, les radios libres se faisaient démonter par les CRS, Tardy et Manchette font leur première BD ensemble, Fatale, une bande dessinée inachevée. Et ensuite, eh ben, ce sera Griffu qui fera date, hein, littéralement. Tardy fera de son côté, après par la suite, Adèle Blanc-Sec, Nestor Burdoin, tâtera de toutes les époques sur deux siècles, tant qu'il y aura une tension sociale à dépeindre. Oui, c'est pas le Nestor Burma que l'on voit sur France 2, hein, c'est vraiment le Nestor Burma de l'après-guerre. Là aussi, il arrive à passer, je dirais, cette époque un peu trouble. où il y a un début de conflit social qui commence à se sentir, et là-dessus, il le fait très bien. Les romans de Manchette, alors j'ai pas lu l'original, Le Petit Bleu de la Côte Ouest, mais en tout cas, Jacques Tardy m'a vraiment donné envie de lire. On sent bien qu'il y a plein de choses, hein, qu'il zappe, qui sont purement descriptives et tout, mais il met une atmosphère, et il fait passer certaines choses, et notamment, donc là, c'est le malaise des cadres dans les grosses boîtes et tout, et d'un autre côté... je vais dire, il va sauvagement sur la vie des petits bourgeois qui se fait troubler littéralement par deux espèces de grands escogriffes qui sont là pour buter, point barre, et il n'y a pas d'autre terme. Le Petit Bleu de la Côte Ouest, d'après un roman de Manchette, et donc adapté par Tardy, c'est la première bande dessinée de Tardy à ma connaissance qui sort chez les Humanoïdes Associés. C'est une grosse perte à mon sens pour Casterman qui se vide de plus en plus de sa substance, je crains bien. Donc c'est à lire, c'est vraiment la grosse rentrée littéraire, c'est du polar pur, noir, sauvage et violent, et ça vaut le coup d'œil à mon sens. Du sport, je sens que tu vas me l'emprunter.
Bah, oui, c'est déjà fait. Hein.
M'en doutais un peu. We Be The Crew, les Wise Guys, enfin le Wise Guy. The Antidote, c'est un album qui est assez vieux, hein, qui a 10 ans quasiment. Mais j'aime bien pour l'atmosphère. Ah merde, il est terminé déjà le morceau en flûte. Parler d'une sortie DVD qui est pratiquement passée inaperçue. C'est un dessin animé japonais. Oh, allez, y a plein de gens qui vont dire ouais, c'est violent, le dessin animé japonais, ça pète, ça hurle, ça crie, il y a des morts, etc. Je pense déjà il faudrait qu'ils revoient les films de Miyazaki pour se faire une idée. Mais surtout, la série en question est assez étonnante. Elle est éditée par Dynamic Vision en Europe. C'est une série sur un format plutôt court, 13 fois 26 minutes, auquel l'auteur est plutôt habitué, puisqu'il s'agit de Yoshitoshi Abe, dont c'est le premier scénario, puisque ça, c'est la troisième série auquel il participe, et en général il le fait sur le niveau graphique. Il faut dire que sa première série avec laquelle il a été révélé, il s'agissait du très angoissant Serial Experiments Lane, où une gamine se retrouvait dans des histoires à propos de la définition du prochain Internet. Et c'était particulièrement glauque, ça passait très tard le soir, c'est passé au Japon à 3h du matin le jeudi soir.
Ouais, ça avait été également diffusé par Canal. Hein.
En clair, avec la voix de Sailor Moon pour la gamine, c'était une honte complète. Oui, parce que... Ah mais les DVD en VO, c'est une merveille. Et voilà, quoi, la série était absolument la baffe, c'est littéral quoi. À côté, donc, il y avait aussi Near Under Seven, qui est une série qui était particulièrement délirante. Là aussi, une autre série courte de 13 fois 26 minutes, où en fait, les extraterrestres sont parmi les humains et on suivait l'histoire d'une extraterrestre qui vit chichement avec une étudiante qui est pauvre, qui fait Alberto, c'est-à-dire elle fait des petits boulots le soir pour essayer de bouffer du pain.
Même si cette série était délire et avait quelques moments assez sympas et assez rigolos, moi je préfère Lane quand même finalement, parce que c'était beaucoup plus avant-gardiste et révolutionnaire que Near Under Seven.
C'est clair que Lane, c'était 30, graphiquement ouais. Et tout ça, c'était une claque monstre.
Au moins, point de vue de la mise en scène qui était absolument extraordinaire.
Surtout pour un budget aussi rikiki, c'est ouais. Ça qui était ahurissant. Et finalement, cette série a eu son propre jeu vidéo sur PlayStation, donc c'est dire... Le carton qu'elle avait
fait. C'est la consécration.
La consécration au Japon, oui, tout si on peut le dire. Parce qu'en France, il a même pas été traduit en anglais, d'ailleurs, je crois. Voici donc que Yoshitoshi Abe, non seulement il va designer les personnages, mais en plus, il va créer toute l'histoire. Il a écrit les 600 pages scénario avec... et il joue dans la mélancolie avec cet étonnant Aibane Renmei, sous-titré en français, c'est-à-dire dans le titre, dans le dessin animé japonais, il y avait marqué en français « Les ailes grises ». En fait, ceux qui suivent ce dessinateur depuis un certain temps ont déjà pu remarquer dans ses premiers fanzines des dessins muets très humoristiques de jeunes anges qui sont parmi les humains, à qui il arrive des petits sketchs assez rigolos, et notamment dans son excellent artbook Essence qui est sorti aux États-Unis en 2000, au Japon je crois qu'il est sorti en... Non, il est sorti aux États-Unis en 2001, au Japon il est sorti en 2000, il a sorti en fait dans la foulée, il a auto-édité d'ailleurs je crois, dans la foulée de Lane pour faire découvrir qu'il fait des trucs qui sont plutôt positifs.
Hein, l'artbook là, où c'est que tu te l'es procuré, espèce de salopard,
et au Festival International d'Angoulême, hein, ouais. et c'est pour ça que je vais souvent dans quand il y a personne de préférence dans la partie boutique, etc. Il y a plein de trucs intéressants dans les fanzines et tout ça, et là franchement ouais, il y a de quoi, hein. Enfin, en tout cas, déjà en 2000, il y avait tous les éléments de la série qui étaient distillés. Essence, distillé. Bon, ok, passons. Ah, Guri, t'es pas obligé de te forcer. Guri, c'est une cité qui est cernée par un mur gigantesque où vivent en harmonie humains et Aibane. Les Aibane sont des espèces d'anges qui sont parachutés du ciel et qui atterrissent dans un cocon. Et la série commence justement où naît, c'est-à-dire au moment où un cocon éclot et où en sort une Aibane qui ressemble à une jeune fille humaine, quasi adulte, au milieu d'autres anges qui sont soit adultes, soit enfants. D'ailleurs, déjà, c'est assez étonnant, la différence d'âge, tu vois, la manière, la maturité qui en sort. On se demande pourquoi. De son rêve qu'elle a fait dans le cocon, eh ben, on va rituellement lui donner son nom. Et son nom à elle, eh ben, c'est Raka, la chute. Celle-ci est donc accueillie parmi d'autres ailes grises qui vit dans une espèce d'école désaffectée, à éduquer des enfants et à faire des petits boulots pour essayer de vivre parmi les humains. Et après l'étonnement de sa naissance qui est consciente, et ben Raka va vivre dans la douleur la sortie des ailes de son corps. C'est des ailes qui sont ridiculement petites, mais au plumage d'un très très beau gris, et qui en fait vont justement donner son statut de Aibane. L'autre statut qui fait ça, c'est son auréole. Oui, sauf que l'auréole, eh ben, elle apparaît pas comme ça. En fait, on la lui pose, toute chaude, issue du four, sortie d'un moule, qui flotte sur sa tête. Le problème, c'est que comme l'auréole tient pas, elle glisse, on est obligé de lui faire un bricolage à base de fils de fer pour que son auréole tienne. C'est assez étonnant, bref. Et après, ben, charge à Raka, dans cet accoutrement un peu étonnant, de trouver une place dans la société. Entre les humains qui les voient comme des porte-bonheur, mais qui ne leur donnent que des objets usés, c'est la seule chose, ils n'ont pas le droit d'acheter du neuf, et les mystérieux gardiens chargés de traditions bizarres, étranges, des sortes de moines qui ont fait vœu de silence. C'est une drôle de destinée aussi que de savoir qu'on était humain auparavant, mais qu'on n'a aucun souvenir de soi-même et qu'on est une espèce d'ange. C'est un purgatoire assez étonnant. Bref, Lane faisait entrevoir le contrôle du numérique et de la technologie. Neander 7 traitait du racisme et de la difficulté d'intégration. Aibane parle d'espoir et de la recherche du pardon. La série est superbe, l'ambiance est rafraîchissante, l'intrigue est, comment dire, elle passe d'abord, elle avance sur un tempo qui est très 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 lent. On n'est pas sur une série d'action en soi, mais plutôt dans un moment d'inspiration, dans la révélation d'une poésie. C'est assez étonnant à regarder car l'aquarelle est très très belle, mais elle cache de lourds secrets. Et c'est produit par Fuji TV, c'est un peu l'équivalent de TF1 au Japon. En général, c'est plutôt série policière, etc. Là, ils ont fait un truc complètement poétique, une mini-série très belle, très lissée, très charmante et très agréable. Sur l'édition française, donc c'est un coffret quadruple DVD, et pas sorti en DVD individuel. C'est la première fois d'ailleurs que Dynamic Vision sort un coffret directement. Il est sorti en plein milieu de l'été, donc complètement inaperçu, c'est bien dommage. Mais après, eh ben, y a dedans un guide papier que tu as entre les mains, qui est d'une lecture passionnante, c'est-à-dire on nous fait découvrir comme si on n'était que visiteur. Si on pouvait aller dans cette cité fermée justement, comment on peut y vivre, quelles sont les formalités d'usage, etc. C'est pas le simple artbook que l'on a en général dans les coffrets DVD en général, non, c'est vraiment, il y a des notes sur l'univers, on le fait vivre, et c'est très très agréable. Et par contre, sur la DVD, ben, il n'y a pas de bonus vraiment intéressant, c'est, je crois qu'il y a un karaoké, c'est tout, il n'y a rien d'autre quoi. Et après, ben, moi, je suis littéralement sous le charme de cette série. Aibane Renmei, Les Ailes Grises, chez Dynamic Vision. 4 DVD, 13 épisodes de 26 minutes. Qu'est-ce que tu voulais
dire? Non, je vais te demander combien il y avait d'épisodes, c'est tout.
Bah, j'ai dit, voilà. En fait, Yoshitoshi Abe, il est vraiment abonné aux séries courtes. En même temps, c'est très particulier comme format, puisque en général, 13 épisodes, ça veut dire que jusqu'à la série 6-7...
Épisode 6.
Jusqu'à l'épisode 6 et épisode 7, on vous montre l'univers, etc.
Ouais,
et après,
il y a
une rupture. Dans Lane, d'ailleurs, elle intervient tôt. Elle intervient à l'épisode 4, puis ensuite à l'épisode 8. Il y en a deux. C'est assez étonnant, sans compter que la fin est complètement délirante et ça peut rien avoir avec une série télé. Dans Neander 7, c'est la disparition de l'extraterrestre de Nia, qui pourtant fait chier littéralement l'humaine avec qui elle vit et que l'humaine va se rendre compte qu'elle s'y est attachée. Donc ça intervient à l'épisode 7 d'ailleurs, Neander 7, avant les 7 premiers épisodes, et après tu la vois plus. J'ai trouvé que c'était un assez bon jeu de mots. Et là, ben, en fait, ça intervient à l'épisode 5, épisode 6, où elle va découvrir quelle est justement la condition d'ange. Pardon, spoiler.
Bon, qu'est-ce qu'on fait? On enchaîne avec le cinéma illico là?
Bon, juste peut-être
un petit morceau avant.
Non. Ouais, bah si, parce que j'ai loupé, c'était prévu et donc on l'a pas fait.
Ah non, mais
ouais.
C'est pas grave, c'était juste pour préciser chez Taifu Comics, la sortie du tome 5 de Gonta, étant donné que j'ai chroniqué les 4 premiers numéros, on va autant vous dire que bah, là c'est la série complète, elle se finit avec ce 5e tome, c'est l'aboutissement de l'apprentissage de la boxe par le héros Kinya, voilà, il va profiter d'un stage sous les palmiers à côté de la plage de son école d'adoption, son école de boxe d'adoption, pour
trouver des nouveaux coups, pour trouver des techniques secrètes et tout. Il s'est aperçu que quand il est proche de la mort ou proche du danger, il développe une faculté de tout voir au ralenti et ça décuple ses capacités d'esquive, etc. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va se jeter plusieurs fois du haut d'une falaise pour voir ce que ça fait.
c'est con ce truc.
voilà. Et sinon, tu m'avais passé aussi. Toujours chez Taifu Comics, Samurai Rising. Alors là, personnellement, je trouve que c'est de la merde. C'est illisible. Moi, je me suis arrêté à la 10e page. Je me suis même demandé si le sens de lecture, c'était dans le bon sens. J'ai rien compris. Voilà. En plus, je trouve le dessin super mal fait. Voilà, je te rends, tiens.
Ça s'appelle un cassage en direct et en public. C'est dommage, on est reçu en service de presse. Alors, on est désolé pour Taifu, mais on a quand même.
Si, bon, ils ont fait quand même du bon boulot sur Gonta. Voilà.
Voilà, et la semaine prochaine, parce que je suis obligé de publier un démenti là.
Oui, excuse-moi, ben, je m'étais engagé à chroniquer le troisième tome de la bio de Tezuka aujourd'hui. Mon fournisseur officiel n'a pas pu me filer l'exemplaire parce que bon, je ne l'ai pas acheté. Hein. Et voilà, ce sera peut-être la semaine prochaine.
Oui, je vais montrer. Nightmare on Wax, Mission Venice. Et encore une fois, c'est le même gag que tout à l'heure. En fait, c'est parce que le CD est déjà tourné. Patin coup fin. Donc voilà. Donc Thomas, ça tombe bien. Je voulais mettre une ambiance. Vous écoutez Radio FMR Supplément Week-end. Et Thomas va parler de cinéma. Et de boxe.
Aussi.
Si c'est de boxe, du sport, il va râler. Et tout.
Non, mais c'est pas grave. Je pense pas. Je sais pas s'il parle de boxe après. Donc on va parler du film Virgile. Je sais pas si t'as entendu parler.
Ah bah ouais, il s'agit de boxe et puis il y a Russell Crowe et puis on a déjà vu comment il tournait et puis comment la caméra elle se déplaçait autour.
Non, c'est pas avec Russell Crowe, ça c'est
Ah non, Virgile, c'est le français. Ouais,
c'est le film français, Virgile.
Deuxième erreur de l'émission, remportée.
Ouais, mais dans Virgile, c'est pas la boxe vraiment.
Non, c'est une comédie romantique avec de la boxe dedans.
Voilà.
Bon, vas-y.
Donc de toute façon, il s'agit d'un film de Mabrouk El Meshri, c'est son premier film. Et ça raconte l'histoire de Virgile, vendeur de sandwich grec, qui rend visite régulièrement à son père au parloir de la prison pour lui baratiner, qui remporte successivement tous ses matchs de boxe et tout, alors que ça fait 3 ans qu'il a arrêté parce qu'on lui a repris sa licence pour avoir tabassé un arbitre. Et tout près au parloir, de l'autre côté, il y a notre père qui se fait visiter par sa fille. Il s'agit de Margot, une blonde pas très commode. Donc Virgile est amoureux d'elle, évidemment. Mais en fait, il est assez timide et il va pas, il préfère y aller par 36 000 chemins plutôt que de l'inviter à boire un verre. Il va préférer, par exemple, crever ses pneus pour lui proposer à la fin de la journée. Ah oh, bah tiens, tu t'as encore fait crever les pneus, je peux te ramener chez toi si tu veux. Et le hic de l'histoire, c'est que le père de Virgile, il va bientôt sortir de la prison et il va découvrir le poteau rose. Alors il y a Virgile, il doit absolument récupérer sa licence. Et voilà, c'est le début des embrouilles. Il va essayer par tous les moyens de la récupérer, reprendre l'entraînement pour être crédible en face des yeux de son papa. Alors, concernant le casting, c'est du premier choix, c'est du lourd. Virgile est incarné par Jalil Lesper, qu'on avait découvert dans Ressources Humaines, incarné, je crois que c'était un stagiaire qui venait pour justement apprendre à l'occasion de la mise en route des 35 heures dans une entreprise.
Et finalement, il se retrouve à licencier, je crois. C'est assez glauque,
Il participe au licenciement, en fait. Dans le rôle de Margot, Léa Drucker. Il ne s'agit pas de la fille 2, mais de la nièce 2, évidemment. Bon, ça c'est dit.
C'est quand même la fille 2, quoi.
Oui, elle est aussi.
C'est la fille 2, mais M6, quoi.
Mais pas de Jean Drucker. Il a comme frère, Michel Drucker.
Je sais pas, ouais.
Ah, j'ai vu dans une interview qu'elle parlait de son père, c'était pas.
Le doute.
Ah, voilà, abstenons-nous de dire des conneries. Ernest, le père de Virgile, est incarné par Jean-Pierre Cassel.
Le fils de.
Non, le père de. Voilà, il fait un bon duo avec Philippe Nahon. Habitué des films de Gaspard Noé,
Seul contre tous.
Voilà.
Mais maintenant on le prend beaucoup pour essayer de rejouer un petit peu ce personnage, moi je trouve, quoi. C'est un peu dommage parce que bon, c'est un acteur qui fait autre chose.
Oui.
Qui s'aime même faire rigoler, quoi.
Mais ça c'était dans des précédents films, non, peut-être. Parce que je me semble pas l'avoir vu dans une comédie. Si?
Non, mais c'est bien ce que je dis, hein, on le prend toujours pour jouer un petit peu le même type de personnage, alors que c'est un mec qui sait même faire rigoler, quoi. Donc c'est un petit peu dommage, quoi.
Bon, en tout cas, le casting est super pertinent. Le héros, Lesper, il est épatant. Je trouve aussi crédible dans le rôle, dans le resto grec, bourru, maladroit, essayant de draguer à sa manière Margot. Et il est crédible également sur le ring parce qu'il a un physique, il s'est fait un physique vraiment impressionnant, balourd, etc.
Il s'est musclé et tout, il s'est entraîné.
Ouais, mais ça c'est la. En plus, ils ont installé des caméras accrochées sur les bras des boxeurs et ça rend bien la puissance et la présence des corps des comédiens. Léa Drucker, je la trouve extrêmement touchante, assez drôle aussi, c'est celle qui apporte la touche un peu plus grave par rapport aux autres personnages, mais quand même elle fait quand même rigoler sur certaines scènes. Elle a un physique assez atypique pour une comédie romantique. Quand elle fait sa petite moue, un petit double menton qui est assez touchant, et elle un physique qui est pas trop qui correspond pas au top model, mais moi je trouve qu'elle est à sa place. Et il faut parler aussi du duo, évidemment, de Jean-Pierre Cassel et Philippe Nahon. L'un est assez volubile, l'autre il est tout à fait muet, il dit quasiment rien dans le film, mais c'est quand même un duo qui fonctionne. En plus, il est extrêmement bien mis en valeur avec la lumière, notamment au parloir ou au mitard, avec des ombres qui épousent vraiment les écorchures de leur visage, etc. C'est vraiment... ils sont bien, extrêmement bien mis en valeur. Si on parle de la mise en scène, Brooke El Meschri nous fout de la référence et à gogo, hein, du plan surcadré, mais c'est pas, contrairement à la majorité des productions françaises, évidemment c'est les productions Europa, c'est pas de la référence gratuite, hein, ça c'est à chaque fois qu'il y a un petit clin d'œil ou un plan appuyé, c'est toujours pour dire quelque chose. Par exemple, on va voir un travelling au ras des roues de voitures garées pour aller au parloir, et à un moment donné il y a la voiture du héros qui arrive, comme il est dans un fourgon complètement crade, la roue qui arrive complètement crade, c'est le genre de truc qui veut dire quelque chose et puis qui fait plaisir à l'œil. Il utilise aussi également assez pertinemment la musique, justement ambiance funky un peu, voilà.
Ah oui, tout à l'heure ce que j'ai mis, mais ça écrasait un peu l'oreille, je trouvais, sur ta voix.
Voilà, avec des arrêts sur image et puis une utilisation de la musique sur des flashbacks qui rappellent un peu ce que fait Tarantino avec ses bandes son. Voilà. Et puis, enfin, pour moi, c'est finalement, on disait tout à l'heure que c'était une comédie romantique matinée de boxe. En fait, c'est pas une comédie romantique qu'on pourrait qualifier de fraîche, comme on dit d'habitude. Ah, oh, c'est frais, c'est rigolo, youhou, et kikikikui. Non, en fait, elle est faite de sueur, elle est faite de punch, elle transpire, ça pue le direct dans le foie. Je vous encourage à aller le voir, en tout cas, Xavier, si t'as rien à faire ce week-end.
Bon, non, t'inquiète, j'ai de quoi m'occuper.
T'attendras la sortie DVD, ok. Bon, et ce qu'on pouvait dire en plus sur ce film, c'est que, bon, ben, ne vous laissez pas rebuter par l'affiche qui est complètement à chier. Même si elle illustre bien le propos du film avec, on voit Léa Drucker et Jalil Lesper assis sur un muret avec un cocard chacun sur un œil. Voilà, bon, l'affiche, elle rend absolument pas hommage à l'ambition artistique et du réalisateur. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que j'avais chroniqué la semaine dernière, ou je sais plus quand, c'était l'ancien numéro de Score, avec le supplément justement consacré à ce film de Virgile, et puis on apprend beaucoup sur les intentions du réalisateur Mabrouk El Meshri, qui dit justement que ses futurs projets concerneraient plutôt l'univers de la télé en France, et qu'il commence à s'énerver en disant ouais, c'est nul, on fait du Ilesco, du Navarro, moi ce que je voudrais faire en France c'est du Soprano.
Voilà. Bah, il a pas tort, mais après s'il arrive à convaincre Canal,
pourquoi pas.
Ouais.
Pourquoi pas, puisque Canal est peut-être dont l'ambition au tout départ c'était de faire du HBO hein, en 84.
Ouais.
Après tout, ça semblerait logique.
Mais voilà. Bon, mais en tout cas, c'est du très bon film. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de coup de cœur comme ça, puisque nous est arrivé à Xavier de chroniquer pas mal de merde. Hein. Et ben là, justement, ça rehausse un peu de niveau. Virgile, allez le voir. Voilà.
Ça vaut le coup. Donc, d'accord. Ok. Je sais pas, du sport, tu veux enchaîner direct
hein. Ouais, bah écoutez, dans la rubrique nécro, je fais très fort, hein. Vraiment très très fort, hein. Tu vas voir, dans le Mad Movie et tout, il y a carrément les deux nécros du mois consacrés à Ed McBain et à Edward Bunker. Donc c'est pas la peine, si vous avez écouté cette émission, c'est pas la peine de lire cette page, c'est derrière, hein, ça c'est derrière. Sans d'encre, voilà, ça s'appelle Sans d'encre, la rubrique dans le nouveau Mad Movie. Mais non, je vous parlais de la disparition de quelqu'un qui était quelqu'un dans le monde sportif, hein, qui a été connu, mais enfin pas de nous spécialement, vu qu'on était un petit peu jeunes ou même pas là encore, et également dans le monde du cinéma, ainsi qu'un petit peu dans la télé. Il s'agit d'André Pousse, qui est décédé hier. André Pousse, vous en avez parlé.
Oui. C'est pas grave, tu vas porter des précisions qu'on n'a pas su donner.
Attends, je l'ai pas précisé, mais il a fait une excellente bio qui s'appelle Je balance pas, je raconte chez PSB Éditions.
Ouais, qui est sorti il y a pas longtemps, il y a deux ans. Il y a un an ou deux ans. Il était retiré des. Comment on dit ?
Il était retiré des affaires.
Retiré des affaires, ouais. Enfin bon, dans un style un petit peu plus fleuri, hein, tel qu'il pratiquait. À l'aise, hein, et c'est un petit peu normal vu l'endroit où il était. Hein, et il a fait beaucoup de vélo, il faut dire. Hein, il était cycliste professionnel durant la première partie de sa carrière, hein, surtout sur piste, bien entendu. Hein, c'est là que ça marchait le mieux, de toute façon. Et surtout dans les années 40, avant-guerre, en particulier au Veldiv, ça l'a pas empêché de partir à l'étranger et exercer sa carrière. Hein, il est parti plus d'un an. Une tournée de plus d'un an aux États-Unis pour faire du vélo. Ça c'est juste après la guerre, juste avant la guerre. Hein, il était détenteur à un moment du record du Tour du Veldiv, quand même. Veldiv, devenu célèbre après parce que bon, on y a parqué autre chose que des cyclistes. Bon, voilà. Parce que moi, c'était quand même.
Enfin, c'était un autre genre de record.
Voilà. Ouais. Mais les stats, c'est pratique pour ça, quoi. Justement, quoi. Il semble. Hein,
oui.
Pinochet en a fait aussi. On passera là-dessus. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ben les activités sportives, bien entendu, sont un petit peu mises de côté, on va dire, un petit peu logique. Et donc, ben, lui, pour continuer le vélo, ben, il se fait livreur de journaux et donc il fait porteur de journaux à bicyclette, ce qui l'amène à fréquenter un certain Michel Audiard et un certain Robert Chapatte, qui par ailleurs était également un sportif et un cycliste accompli avant de faire de la télé. Retiré de la piste en 48, il a été entre autres, il était déjà bien introduit, hein, parce que bon, il fallait savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas la télé, on allait très peu au cinéma, c'est plutôt le cinéma qui des fois qui se déplaçait, et donc c'était le music-hall qui était très important, et le sport avec bien entendu des grosses figures telles que les boxeurs, les cyclistes, et autres, et donc de par ses accointances et de par ses amitiés, il est devenu impresario de Joséphine Baker et d'Eddie Constantine. À un moment, il a un petit peu fricoté avec Edith Piaf, mais enfin bon, Edith Piaf,
elle était avec un boxeur, hein, quand même.
Oui, oui, mais après. Le boxeur, ça a été après André Pousse. Et il a été directeur artistique du Moulin Rouge, monsieur, s'il vous plaît.
Ah ouais.
Créateur de la locomotive, à Paris.
Qui est une salle de concert qui est un peu comme l'équivalent du regretté bikini ici.
Voilà, c'est ça. Et dernièrement, hein, jusqu'à qu'il se retire sur la Côte d'Azur, il était patron d'un resto dans le 15e et il a commencé le cinéma assez tard, il faut dire, dans les années 60, début 60, dans un film, le premier film avec Johnny qui s'appelle « D'où viens-tu, Johnny ?» Te rappelles, où il est sur le cheval dans Camargue et tout, il est là, trop cool. Et donc avec André Pousse, mais plus connu bien entendu pour ses seconds rôles dans Les Tontons Flingueurs et tous les films estampillés Audiard bien entendu, mais également Lautner, il a également fait un ou deux Melville quand même, hein, ça vous classe un petit bonhomme comme ça, il est décédé. Donc hier matin,
il
avait 85 ans dans Les Tontons Flingueurs, je sais pas, je me rappelle pas. Peut-être qu'il
n'y
est pas.
Il y est pas. Il y est pas. Non.
Bon, c'est pas grave, voilà. Ok. Hommage à toi, André, et repose en paix. Je voulais vous le faire la semaine dernière, mais visiblement, on n'avait pas trop de temps, vu qu'on a débordé, on a quand même débordé comme des malades. Alors, des petites chaînes nouvelles sur le câble et sur le satellite, ça vous intéresse?
Oui.
Depuis le 1er septembre, c'est-à-dire depuis pratiquement plus d'une semaine, pour les plus jeunes d'entre nous, Adibou, qu'on connaît dans l'édition, bien entendu.
Dans l'édition, dans l'édition informatique, puisque ils ont surtout commencé par une série de jeux ludiques éducatifs.
Jeux d'éveil.
Voilà, et c'est une boîte française d'ailleurs qui a très bien cartonné grâce à ça.
Ouais. Il y a également le magazine mensuel Adibou pour les plus jeunes. Et là, c'est la chaîne Adibou TV qui arrive donc, qui est arrivée sur le pack famille de Canal Satellite. Un petit peu plus sérieux, et là ça vient de l'autre côté de l'Atlantique, c'est Discovery, mais donc connaissez-la déjà, Discovery Channel.
La chaîne principale.
Il y a une déclinaison Discovery Real Time, qui est un petit peu du Martha Stewart 24h sur 24, où on t'apprend comment il faut mettre les napperons à côté de du couteau et de la fourchette, parce que sinon, quand tu prends le poisson, ça va pas le faire. Tu vois, et ensuite, on va te dire, non, là, pour les fenêtres, vous voyez, on vous conseille plutôt de mettre du vitrage filmé, parce que vu l'exposition, c'est la chaîne du bon vivre, on va dire.
C'est une chaîne d'intérieur, quoi.
Art de vivre, on va dire. C'est disponible sur CanalSat et sur Numéricable. Et nous, UPC, plus près de nous, et certainement plus regardé, à mon avis, que Discovery Real Time. Enfin, bien qu'on s'en vante pas généralement, c'est Playboy TV qu'on pouvait auparavant avoir sur la version kiosque. Hein, c'est paiement à la séance pour les nombreuses déclinaisons. Là, ça commence à être une chaîne à part entière qui est également en option sur CanalSat. Tout ça, c'est déjà sorti. Hein. Et pour ceux qui disent que Playboy TV, c'est bien gentil, mais c'est pour les adolescents prépubères qui ont pas encore vu du vrai, du pur et du dur. Je leur conseille plutôt. Je leur conseille plutôt Private Gold. Là, c'est chaîne X carrément. Hein, c'est
produite par des Espagnols. Hein.
Coproduction espagnole et danoise. Yes, ouais. Private. Avec donc cette chaîne qui est disponible également sur le réseau CanalSat
et sur les chaînes ADSL aussi.
Yes, oui, bien entendu.
Ça vaut pas des masses. Hein,
voilà, ok. Déjà sorti également comme nouvelle chaîne pour ceux qui sont intéressés, comme Raymond Domenech, notre cher entraîneur sélectionneur amour. C'est Astro Center TV, horoscope, tarot, voyance et consultations astrologiques en direct. Attention. Nouvelle chaîne de TPS, c'est TPS.
C'est sorti sur TPS, c'était
Canal
censé
85.
Être, c'était censé être sur CanalSat au départ, en alternance avec Live One. Et Live One, il se trouve que les actionnaires ont décidé d'arrêter, puisque derrière c'est le groupe Lagardère. Allez hop, ciao. Il y a une autre chaîne d'ailleurs qui est concurrente, Live One, qui en est très contente. Mais donc Astro Center TV était censé être sur CanalSat, s'est retrouvé sur TPS. Et le plus drôle, c'est que c'est une chaîne américaine. Alors quand vous voyez le numéro, c'est un numéro Azure, appelé, c'est un appel local, etc. On vous demande votre numéro de carte bleue.
Attention. Il y a également OMTV et OLTV qui sont disponibles à présent sur.
Ouais, TV, CTV aussi.
Ça,
hein.
Le 15 septembre, c'est-à-dire la semaine prochaine, un petit peu plus sérieux, et là, ça comblera certainement les amateurs de cinéma, de vrai cinéma. Enfin bon, il y a du vrai cinéma, il y a du faux cinéma, de toute façon, on s'en fout. À partir du moment où on s'éclate,
c'est que du vrai.
Nous plaise, bah, c'est du vrai cinéma. C'est TPS Ciné Club, hein, sans supplément de prix, encore une 7e chaîne, donc consacrée au cinéma sur TPS. Le mois prochain, le 5 octobre, là, ça va être du lourd, quand même du lourd. Avec Fox Life, mon gars, c'est une mini-généraliste familiale, on va dire, hein, qui nous déverse son robinet de séries estampillées Fox, bien entendu, attention,
ah, donc pas trop déconner. Hein. Donc est-ce qu'il y aura les 24? Est-ce qu'il y aura... Non,
c'est un petit peu plus soft que ça, hein,
plus
de toute
soft,
façon. Il y a des séries qu'on connaît pas, il y a Hélène qu'on connaît, il y a Plus belle la vie, Œuf...
Plus belle la vie, c'est France 3.
mais attention, parce que bon, ouais, c'est des programmes américains et également des programmes européens, voire français, bien entendu.
C'est une obligation parce qu'ils sont déclarés en France.
Voilà, voilà. C'est ça. Par contre, enfin, c'est...
La convention est signée en France pour l'Europe.
Par contre, c'est bien pratique d'être une chaîne qui fait également du cinéma, parce que comme ça, on a tout le catalogue Fox qu'on peut diffuser à l'écran. Allez, vas-y, roule un petit peu plus loin. En novembre, eh bien, on aura encore... une chaîne consacrée, une chaîne à destination des plus petits. Alors là, attention, là, ça risque de dépoter un maximum. Il s'agit de Baby TV, une chaîne anglo-israélienne qui va nous promettre des programmes pour les tout petits. Bon, ça s'adresse, c'est pas la génération Canal J, c'est plutôt TJ, hein, TJ, c'est-à-dire les tout petits, hein, jusqu'à... On va dire 4-5 ans, en étant large, hein, de 0 à 4-5 ans. Quoi. Enfin bon,
avant
si vous foutez devant la télé à cet âge-là...
Après la circoncision, avant la varice 20, décoller, non, hein. Pardon, désolé.
Voilà. Disponible sur TPS. Un peu plus sérieux et un petit peu plus, on va dire... Enfin, je préfère ce genre de... Donc, parce que c'est une chaîne qui a déjà produit, qui a déjà réalisé et produit de nombreux programmes qu'on peut voir justement sur les chaînes des jeunesses françaises, hein, telles que Canal J ou les autres. C'est Nickelodeon qu'on va voir apparaître en novembre. Hein, Nickelodeon qui produit des trucs comme Bob l'éponge, c'est le plus connu, les Razmoquettes, Avatar, Danny Phantom, etc.
C'est une chaîne d'animation d'ailleurs qui est très orientée découverte et du groupe Viacom, hein, MTV d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils produisent énormément de séries, mais qui sont plus basées sur l'éveil, hein, plutôt que sur Bob l'éponge, c'est vraiment le cas à part dans leur prod.
Ouais, et également, comme tu parlais d'MTV, il y a également encore une d'autres déclinaisions d'MTV qui vont apparaître.
Ah ouais,
en novembre, MTV Rock et MTV Gold. Hein,
alors on avait MTV 2 qui est pop rock, il y a MTV Base qui est tout ce qui est rap, hip hop, un peu de two-step des fois de temps en temps, et MTV Hits, il y a MTV Classic, il y a VH1, VH1 Classic, VH2 pour les classiques des années 90, enfin bon, c'est vraiment...
Oui, on sait que t'as la Freebox,
merci,
ça
merci,
va.
Ah non, si tu veux toutes les chaînes MTV, il faut avoir BSkyB, où là c'est affolant, t'as carrément 20 canaux MTV, c'est monstrueux.
Ouais, je vous avais déjà mis l'eau à la bouche samedi dernier avec Sci-Fi Channel,
yes,
qui n'apparaîtra qu'en décembre, hein, malheureusement, c'est un petit peu dommage, hein, c'est sur, ce sera disponible sur CanalSat, hein. Alors, qui a produit des séries comme Babylon 5, American Gothic, Sliders, Tripping the Rift, ça c'est un truc que je connais pas. Bon, peut-être que
ça arrive. Hein.
Ouais.
Il passe des belles daubes aussi. Hein,
il passe des belles daubes aussi, mais enfin bon, ça vaut quand même un petit peu. C'est une chaîne qui est consacrée à des séries, des films, des documentaires et des magazines sur le futur. Voilà la vraie illumination de cette chaîne.
C'est un peu le mélange de l'ex-planète future et de TF6, si je puis dire.
Voilà, et si vous avez envie de maintenant dans un domaine un petit peu différent, il s'agit du monde des d'internet avec quelques petites adresses de sites qui parlent justement de télé, qui parlent justement
Thomas,
de séries.
Thomas, tu notes.
Alors non, je te laisserai le papier comme ça tu pourras bien vérifier. Il y a déjà www.imedia.biz qui est
une référence
qui est édité par des étudiants qui sont passionnés par le monde de la communication. Alors ça suit l'actu des médias, les télés, les radios, le web. Il y a des brèves qui sont actualisées généralement journellement.
Et toutes les semaines. Et toutes les semaines, News Media.
Il y a des interviews également de gens qui font la télé, des producteurs, des acteurs, des patrons de chaîne et des trucs comme ça. Tout ça, c'est donc www.imedia.biz.
On y retrouve News Media dedans, qui est une newsletter qui existe depuis 7 ans sur la télévision. Et c'est une référence d'ailleurs pour les professionnels.
Il y a également www, toute la télé, c'est collé, toute la télé, sans les accents en plus, .com, qui est exclusivement consacré à la télé, hein, alors que Imedia, c'est un petit peu plus généraliste, on va dire.
Ouais, hein, il parle de radio.
Ouais, télé, radio et web, justement. Ouais. Ouais. Et toute la télé qui est ce site propose des news, mais également des articles qui, des fois, sont assez voluminés, quoi. C'est-à-dire, genre un petit peu chiant pour ceux qui ont l'habitude de spinner, quoi, genre chiant à lire et tout, quoi. Putain, c'est encore la même page. Enfin bon, voilà, quoi. Il y a également planettetélé.com, hein, toujours 3W, qui s'intéresse qu'aux séries françaises et étrangères et aux émissions de télé-réalité. Il y a, paraît-il, une mise en page agréable et des news illustrées.
Je trouve pas ça
également. Il y a également un autre site, mais là qui est payant. Alors bon, c'est peut-être pas trop intéressant. C'est www.satellifax.com.
En général, les infos.
Satellifax publie tous les matins les infos qui agitent le petit écran, mais le service est payant, donc je vous rappelle.
Le service est payant et en plus, les infos souvent sont repompées ailleurs sur le web. Donc si vous avez les mêmes bookmarks qu'eux, voilà.
Ça tu pourras vérifier, hein, pour les autres. Sinon, dans le domaine des séries, justement, il y a une série dont je vous ai pas parlé la semaine dernière et qui est en concurrence avec Les Messagers des Ténèbres. Je vous en avais parlé la semaine dernière, hein.
Yes.
C'est pas mal, le Messager des Ténèbres, hein. C'est, je vous rappelle le pitch, hein, c'est le mec, le moine qui conclut un pacte avec le diable et donc il se réveille plus ou moins 6 siècles après, c'est-à-dire de nos jours. Et il doit ramener les âmes de personnes qui ont été condamnées par le diable. Il doit les ramener, mais il a 48 heures de délai pour essayer de sauver l'âme, hein. Donc voilà un petit peu le trip. Bon, ça a l'air un petit peu fumeux comme théorie. C'est vrai que dans l'épisode pilote, ça passait un petit peu pas bien, on va dire, hein, cette histoire de rappeur à la mode a conclu un pacte avec le diable, comme quoi 10 ans plus tard, il allait tout perdre. Et l'autre va essayer de le rappeler, mais en fait, le rappeur décide quand même de se sacrifier pour la bonne cause. Hein, c'est bien judéo-crétin quand même. Il y a un petit peu de base comme ça.
Ah, le jeu de mots bien placé.
De ressentiment un petit peu, hein, mal placé, je trouve. Bon, c'est une série canadienne, hein, mais le deuxième épisode m'a un petit peu plus convaincu. Faut dire, c'est une série à regarder. Et en même temps, c'est le Messager de l'étrange, ça passe sur Canal Jimmy le mardi, et en même temps sur Série Club qui diffuse encore des trucs bien. Hein, j'ai perdu l'habitude de parler de Série Club, et pourtant c'est la chaîne des séries qui passe que des séries. En même temps donc mardi et mardi prochain 20h50, c'est L'île de l'étrange. Alors le titre en français est nul parce que le titre original s'appelle Glory Days, et c'est une série de qui? Eh bien, présenté, bien entendu, alors généralement sur une affiche et tout, vous voyez ça, des fois en plus grand que le titre du film et tout, par le scénariste de Scream et de Dawson, Kevin Williamson. Voilà, c'est la nouvelle série. Kevin Williamson, et le pitch, l'histoire originelle au départ est très très intéressante. Moi je trouve que c'est rigolo, c'est un écrivain de polar vachement connu. Enfin bon, il a sorti un ou deux bouquins mais qui ont fait un carton monstrueux, genre David Sicode, tu vois, un truc comme ça. Et il retourne dans son état natal parce que son père est mort, et bon, pour savoir de quoi est mort son père, il y a des trucs qui lui paraissent bizarres. Or, dans le bouquin qu'il a rendu célèbre, justement, quoi, il s'est inspiré très librement, il a pris pas mal de personnages qui ressemblent curieusement aux gens qu'il a connus quand il était un peu plus jeune dans son petit patelin. Et donc, quand il retourne dans son patelin, ce qui se passe, c'est que les mecs, ils font un peu la gueule à le voir et tout. Ah ouais, alors quand le shérif qui dit, ah ouais, alors comme ça, moi, je suis un PD refoulé, et tout, enfin, genre, quoi, tu vois. Mais il se rend compte que bon, il se passe quand même des trucs zarbes et que ça vaut le coup d'y rester parce que bon, bah, la mort de son père n'est pas encore élucidée de toute façon. Alors, on y voit Eddie Kyle, donc qui joue le rôle principal, et en plus, il est écrivain, il retourne dans le Maine. Suivez mon regard, écrivain célèbre installé dans le Maine. Qui n'en sort d'ailleurs pas. Un certain Stéphane.
C'est pas Stéphane?
Ouais, Stéphane. Stéphane.
Appelez le roi des conneries.
On y voit également Poppy Montgomery qui irradie de son charme dans FBI portée disparue. Tu sais, la blonde là.
Ah ouais.
Et là, je peux dire qu'elle est encore plus craquante dans L'île de l'étrange. Hein. Là, vraiment, l'apparition, wow, pas mal, hein, bien joué hein, quand même. Y a de quoi. On va la suivre de près celle-là, hein, de Poppy Montgomery. Et je sais pas si t'as vu hein, dans le FBI portée disparue hein, de cette semaine là. Ah ben non, vous étiez tous devant le match
de foot.
Eh ouais, il y avait le match de foot. Bah, il faut enregistrer, c'est pour ça.
C'est du sport. Ben, c'est du sport dire, qui a suivi.
Antenne 2 a quand même, France 2 a fait les choses bien parce qu'ils ont diffusé deux inédits à la suite. Hein, alors que d'habitude, le mercredi, c'est et profitez-en, c'était les derniers. Il y en a plus la semaine prochaine. Il y a pas de FBI portée disparue. Hein, laisse tomber. Ça, on retourne à la bonne fiction, bien franchouillard. Eh ouais, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Et à la fin du deuxième, bien un soupçon d'idylle apparaît comme ça entre deux des protagonistes principaux. Oh là 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 là. Mince alors.
Et t'as vu quand même que quand on met côte à côte, je crois que t'en as parlé d'ailleurs ça, samedi dernier, pardon. FBI disparu et
les experts.
Et CSI. C'est dans un mouchoir de poche, hein, quand même.
Ouais, c'est dans un mouchoir de poche. Mais enfin, bon, de toute façon, le style n'est pas du tout le même, de toute façon. Donc, ça peut contenter
un public large.
Un public large de part et d'autre, hein, de toute façon. Il n'y a pas de problème. Et vu les rediffs, de toute façon, on se les aura un jour ou l'autre. Sinon, nouvelle saison inédite sur Paris Première, parce que sur TPS Star, elle est déjà passée, elle a déjà été diffusée. C'est Scrubs, cette magnifique, cette excellente. Ah. Mais alors là, c'est peu de le dire, hein. C'est un monument, hein, cette série, carrément. Mini-série, donc avec un format réduit, c'est le 26 minutes, hein, la moitié de 52. Bien joué, le gars! Et c'est vraiment un humour cartoonesque. Hein, c'est du Tex Avery filmé, des dialogues excellents, très très fins, que ce soit dans la rigolade, que ce soit dans les séquences un petit peu plus sévères, un peu plus graves et tout. C'est vraiment très très fouillé. Ça pète de tous les côtés. C'est génial. C'est Scrubs, donc. Avec Zach Braff dans le rôle principal. Zach Braff qui a d'ailleurs tourné son premier film en tant que réalisateur et qui a fait qui a fait Sundance et ensuite il s'est tapé d'autres festivals comme ça. Le mec il pas mal hein, vraiment hein, ça va hein. Et le film a eu de bonnes critiques hein. J'ai pas vu le film mais l'histoire d'un mec et d'une nana qui à la fin de l'adolescence se retrouve je sais pas quoi enfin bon mais enfin pas mal hein, vraiment hein, Zach Braff de toute façon. Et avec dans cette troisième saison la série marque également par ses acteurs principaux, Ted McGinley, Zach Braff et j'en passais des meilleurs, mais également par les guest stars. Hein, on a déjà vu Brendan Fraser, Heather Locklear, je me rappelle pas les autres. Et dans la troisième saison, on aura Scott Foley, on aura Chris Meloni. Chris Meloni, c'est Keller dans Oz, c'est l'inspecteur Stabler dans New York Special Unit. Et Michael J. Fox. Qui s'était arrêté hein, il était la vedette dans Spin City. Il a dû laisser sa place parce que il souffre du Parkinson,
Parkinson.
Donc il pouvait plus bosser. Enfin il travaillait déjà en ayant la maladie de Parkinson et Spin City les deux dernières saisons. Il était déjà bien malade, il faut dire ce qu'il aime, mais bon ça ne transpirait pas du tout à l'écran. Il avait décidé de s'arrêter parce que c'était vraiment trop dur physiquement pour lui hein de faire les deux, vie de famille et vie professionnelle. Et là quand même pour faire quelques petites guests et surtout dans cette série chapeau, c'est diffusé sur Paris Première tous les samedis à 19h55 et pour ceux qui ont le télécable satellite de cette semaine pour le programme de la semaine à venir que j'ai pas ramené, mais c'est Dominique Monaghan en couverture. C'est qui Dominique Monaghan?
C'est Merry le Hobbit.
Merry le Hobbit, qui
c'est le drogué de Lost.
Non, c'est le rocker de Lost.
Le rocker, ouais.
Et attention, parce que dans la vraie vie, tu sais que ce mec-là, il se tape la brune de Lost. Non. Angeline Lilly.
Merde.
Aïe. T'as vu ces Anglais quand même. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont forts. Et Dominique Monaghan. Pour voir à quoi il ressemblait quand il était plus jeune, avant le Seigneur des Anneaux, hein, eh bien, on peut le voir sur TMC. Dans les enquêtes de Hattie Weintraub Investigates, c'est une série qui a été produite par la BBC de 96 à 99. Et alors le même genre, série policière anglaise avec Hattie Weintraub qui est vieille dame, hein, dans les 70 ans, un truc comme ça. Qui décide de fonder son agence de détective privé et donc le bonhomme, le Archie Goodwin qui va lui servir,
le
mec qui court partout, c'est Dominic Monaghan qui est par ailleurs voleur à la tire et donc c'est bien pratique pour rentrer un peu partout, fouiller et tout ça dans les enquêtes d'Eti. Il y a eu 29 épisodes de tournée entre 96 et 99 et c'est disponible, j'allais dire non c'est visible tous les mercredis sur Télé Monte Carlo à partir de 20h55, deux épisodes à la suite. Et alors là, tu m'as taxé mon Mad Movie. Alors là,
il est là. Ah voilà.
Mad Movie spécial avec Nana, spécial
Beckinsale en couverture.
Ouais, spécial femme fatale. Et donc avec la nécro dont je vous parlais. Hein, enfin, si vous avez écouté l'émission, il y a rien de plus. Hein, de toute façon, alors, que ce que j'ai dit.
Ouais. En feuilletant tout à l'heure, j'ai failli mourir de rire parce que il y a un passage sur Charlize Theron à l'occasion de la sortie d'Aeon Flux. Tiens-toi bien Xavier et puis tenez-vous bien pour ceux qui connaissent bien l'univers d'Aeon Flux. Il y a un extrait d'interview de Charlize Theron qui dit: Aeon Flux est une héroïne intéressante, elle est ambiguë et possède des failles. Déjà il y a un truc qui cloche par rapport à la série.
Ouais. T'as toujours le numéro du réalisateur de la série
de Peter Chung? J'ai son mail, ouais.
Ouais, faudrait que tu lui demandes si ça va, s'il a pas des tendances suicidaires, parce que là, c'est catastrophique.
Tu parles de suicide, bon, on sait que...
Ah, bel enchaînement,
pour terminer dans la joie et dans la bonne humeur et tout, on sait que la pendaison est un des moyens les plus couramment employés pour y parvenir, même si ça ne réussit pas à chaque fois. Et c'est pas dans cet esprit-là du tout que TCM, une chaîne qui se consacre au cinéma classique, hein, c'est-à-dire
au niveau des années 60,
noir et blanc, on monte jusqu'aux années 60, je crois, hein, on dépasse pas les années 70 de toute façon. Et TCM a décidé de nous faire un mois spécial. Attention, il y en a pas tous les jours, hein, il faut choisir ses jours quand même. Mais,
spécial pendaison.
Non, un mois spécial, 100 ans de western. Le premier western a été tourné en 1905, les gars. Davy Griffith, David Ward, c'est comme ça qu'il s'appelait, mec, il me semble. Et dans le cadre donc de cette programmation qui commence dès aujourd'hui, demain je vous propose un spécial pendaison carrément. C'est pas moi qui fais les programmes, c'est TCM quand même. À 15h15, c'est quand même des bons films. Attention, hein. À 15h15, un gros classique, La Colline des Potences. De Delmer Davis de 58 avec Gary Cooper et Maria Schell, hein, c'est Gary Cooper qui est toubib dans l'Ouest et puis il soigne une jeune aveugle et puis elle va même recouvrer la vue carrément et tout. Ah ouais, c'est génial, c'est La Colline des Potences donc à 15h15 demain sur TCM.
Suivi du Eddie Mitchell derrière.
Oui, suivi à 17h10 du Trésor du Pendu, qui date de la même année, hein, 58, par John Sturges qui nous a fait des films plus importants parce que c'était un bon pote de Steve McQueen, donc La Grande Évasion et les Magnificent Seven, hein, quand même, John Sturges. Là, Le Trésor du Pendu avec dans les rôles principaux Richard Widmark, alors là c'est même pas la peine, on signe de suite et on y va. Et la balance, Robert Taylor qui est là quand même, il fallait quelqu'un qui ressemble à Ivano et donc on s'est dit on va prendre Robert Taylor. Et c'est l'histoire d'un ancien hors-la-loi qui devient shérif et qui aide un ex-complice à s'évader de prison. Aïe, quel dilemme quand même. Et en fin de soirée à 22h40, toujours demain soir, donc sur TCM, Une Corde pour te pendre. Tu vois, spécial Raoul Walsh, là encore plus ancien que les autres, il date de 51. Avec Kirk Fawcett Douglas, bien entendu, et Virginia Mayo. Et là, c'est un petit peu une histoire qui a inspiré d'autres... qui est inspirée d'un film plus vieux, me semble-t-il. Hein, c'est l'histoire de Assault on Precinct Number 13. Dans le désert, un shérif, ses adjoints et un suspect sont harcelés par une famille ivre de vengeance. Un petit peu, vous voyez,
ça a inspiré le film de Howard Hawks, Rio Bravo.
Voilà.
Où c'était avant Rio Bravo.
Il date de 55, ouais. 51. Et c'est un Walsh, hein, de toute façon. On sait que souvent, ils ont réutilisé un petit peu les mêmes ficelles, quoi, histoire de prolonger comme ça. Sans problème. Et alors, dans le Mad Movie de ce mois, parce qu'il est disponible soit comme ça, juste le papier, ou soit avec le DVD, Déjà le mois dernier, il nous avait fait Two Sounds and Mind Maniacs de Herschel Gordon Lewis.
Énorme.
Impeccable. Alors, je me suis dit putain, il pourrait mettre le premier quand même. Merde, il commence par le second. Eh bien, ce mois-ci, c'est le premier. C'est Blood Feast,
yes.
Le film fondateur du gore. Il est là, ouais. Et donc, bah, ça nous fait la collection pratiquement complète de Monsieur Herschel, parce que bon, les autres, c'est pas tellement le même genre. Tu vas même pouvoir enlever le cellophane pour pouvoir les regarder. C'est carrément
génial. Mais je me demandais où c'est que tu trouvais tous tes DVD. Barré là, la réponse est en mode movies.
Voilà.
Je tiens à signaler d'ailleurs qu'on parlait de Assaut sur le 13e Precinct.
Ouais.
Il y avait un DVD qui était encarté dans Mad Movies, je crois, hein, de ce film.
Non, c'était pas dans Mad Movies, c'était un DVD comme ça.
C'était dans Mad Movies ?
Si, c'était dans Mad Movies. Oui.
De quoi de Assaut ?
Assaut, oui.
Ah bah, je peux vous dire que le DVD était super mal produit, la qualité d'image était déplorable, on dirait que c'était une copie VHS.
J'ai l'impression que le mec il a filmé avec une caméra sur la télé.
Et ben c'est passé sur Cinépolar cette semaine, ouais, et la qualité était nickel quoi. Franchement, il y a des producteurs qui font vraiment n'importe quoi comme boulot à l'importation.
Ouais, moi je me suis acheté à 65 balles le DVD simple et puis voilà. C'est nul.
On va céder la place à du sport, donc le temps qu'on est en train de tout inverser, parce que là vous ne voyez pas le bazar, mais en fait je suis en train d'éjecter, céder et tout.
Voilà,
tout
Xavier qui essaie de faire l'homme élastique.
Voilà, c'est la fin de supplément week-end, donc pour ceux qui ont manqué le début, puisqu'on a débordé de 26 minutes. Thomas, est-ce que tu peux en faire un résumé, je te prie?
Ouais, mais là j'étais paresseux aujourd'hui, j'ai pas tout noté. J'ai noté quand même, on a eu un démenti sur une chronique annulée sur Tezuka et un cassage sur Samurai Rising, le manga de Typho Comics.
Et deux grossières erreurs.
Deux grossières erreurs de ta. Une de ta part et une de la part de du sport. C'était concernant quoi déjà?
Ah, j'ai oublié ce que c'était, mais. Je crois que ça,
enfin, il y a eu des erreurs, comme d'habitude. Hein.
Comme d'hab, vous voyez ce que l'on veut dire. Hein. On n'est pas complètement tous professionnels.
Ouais.
Et puis voilà. Hein. Mais bon, ceci dit, si vous voulez vraiment savoir ce qu'il en était, il vous suffit tout simplement d'écouter l'émission sur le web et même disponible dans podcasting dans iTunes 5.
Alors, est-ce que l'émission est disponible? Est-ce qu'il y a le lien sur le site de Radio FMR maintenant?
Toujours pas.
Bon, ben on va donner l'adresse du site de l'émission alors.
Dascritch.net, dascritch.net. Oui, je sais, c'est un peu compliqué. Ben, c'est très simple. Vous mettez entre guillemets supplément week-end, vous fermez les guillemets, MP3 et podcast, et vous tombez dessus normalement sans souci dans Google. Ceci dit, on se donne rendez-vous samedi prochain à partir de midi.
Voilà. Passez une bonne semaine d'ici là. Essayez de pas trop vous mouiller à cause de la pluie. Et puis.
Oui, c'est la dernière fois que je pourrais mettre ma superbe chemise
Magnum.
Non, c'est l'autre, la chemise Magnum. La chemise Magnum, elle est rouge. Celle-ci, elle est blanche.
Multicolore, on va dire.
Voilà, enfin, découpée dans les cabines de douche. Hein. J'ai un excellent tailleur pour ça.
Bon week-end.
Ciao.